Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous ce matin, de voir quelques visages que je connais, quelques noms que je connais avec la caméra pas allumée. Mais de vous, je me présente, donc Jérémy, je suis ancien à l'église de Palaiseau. Et du coup, je travaille en informatique à Villejuif. Je suis enfant de parents missionnaires américains. Et je suis donc en région parisienne depuis 2009. Donc ça commence déjà à faire un certain temps dans cette région francilienne. Et je suis heureux d'être avec vous à distance. Bon, en effet, la connexion était rapide, plus rapide que si j'étais venu jusqu'à mon travail. C'est un avantage de se voir par Zoom. Ça n'en a pas que des avantages, mais il faut prendre aussi les positifs. Alors, je vais partager mon écran. Alors, ce matin, mon message s'intitule « Mesurons bien à qui nous avons affaire ». On lira tout à l'heure Apocalypse 1, les versets 9 à 20. Donc mesurons bien à qui nous avons affaire. Et pour commencer, je vais vous proposer d'ouvrir votre livre, Les Confessions de Rousseau, au livre premier. Vous n'avez pas prévu, non? OK. Pas de souci, je vais vous lire les premiers paragraphes. C'est Les Confessions de Rousseau, livre premier. Et donc, c'est Rousseau qui parle. Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme, ce sera moi. Moi seul, je sens mon cœur et je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus. J'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si la nature a bien ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté, c'est ce dont on ne peut juger qu'après m'avoir vu. Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra, je viendrai, ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge. Je dirai hautement, voici ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fus. J'ai dit le bien et le mal avec la même franchise. Je n'ai rien eu de mauvais, rien ajouté de bon. Et s'il m'est arrivé d'employer quelques ornements indifférents, ce n'a jamais été que pour remplir un vide occasionné par mon défaut de mémoire. J'ai pu supposer vrai ce que je savais avoir pu l'être, jamais ce que je savais être faux. Je me suis montré tel que je fus, méprisable et vil quand je l'ai été, bon, généreux, sublime quand je l'ai été. J'ai dévoilé mon intérieur tel que tu l'as vu toi-même. Être éternel, rassemble autour de moi l'innombrable foule de mes semblables, qu'ils écoutent mes confessions, qu'ils gémissent de mes indignités, qu'ils rougissent de mes misères. Que chacun d'eux découvre à son tour son cœur au pied de ton trône avec la même sincérité, et puis qu'un seul te dise, s'il ose, je fus meilleur que cet homme-là. Alors, si je vous lis ce texte de Rousseau, c'est pour regarder quelle est cette attitude qu'il prévoit d'avoir quand il rencontre Dieu. Déjà à l'époque, quand j'étudiais ce texte, quand j'étais en seconde, j'étais frappé de l'orgueil qu'il montrait. Rousseau prévoyait de fanfaronner devant le grand juge au jugement dernier, en s'appuyant sur son livre comme preuve que Dieu devait le laisser entrer au paradis. Donc, là, on a une attitude un peu extrême de Rousseau, mais nous, comment visualisons-nous notre rencontre avec le grand juge devant son trône? Comment imaginons-nous la scène? Et je vous propose ce matin de nous intéresser à une des rencontres de quelqu'un avec Dieu qui nous éclairera sur notre place vis-à-vis de lui. Et donc, nous allons lire ensemble Apocalypse 1, les versets 9 à 20. Il s'agit de la rencontre de Jean, un des disciples de Jésus, bien des années après, alors qu'il est sur l'île de Patmos, persécuté pour sa foi. Et donc, c'est sa rencontre avec Jésus glorifié. Et nous verrons que Jean n'a pas du tout la même attitude que Rousseau prévoyait d'avoir quand il rencontre Dieu. Et donc, je vais vous lire le texte et je vous propose de fermer les yeux et d'écouter les descriptions de Jean. puisque Jean va nous inviter à utiliser notre imagination, même si notre imagination ne suffira pas. Et du coup, essayez d'écouter, fermez les yeux et écoutez les descriptions de Jean. Donc, l'Apocalypse 1, verset 9 à 20. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil, lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors la main droite sur moi, en disant, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or, le voici. Les sept étoiles sont les anges des sept églises. Et les sept chandeliers sont les sept églises. » Et donc là, on a vraiment, vous pouvez ouvrir les yeux, on a une vision glorieuse de Jésus dans sa gloire et confronté à ça, une attitude tellement humble de la part de Jean. Et donc, je vous invite d'abord à redécouvrir dans ce passage qui est Jésus, avant de voir quelle est sa relation avec Jean et à partir de là, quelle est sa relation avec nous. Donc d'abord, qui est Jésus? Nous avons deux témoins dans le texte, Jean et Jésus lui-même. Et donc on va s'intéresser d'abord à ce que voit Jean, avant de regarder ce que Jésus dit de lui-même. Alors que voit Jean? Quand Jean se retourne, appelé par une voix derrière lui, il voit quelqu'un d'indescriptible. Il va faire de son mieux, mais la description reste vague. Quasiment tous les éléments de la description soit parlent de ressemblance, soit sont des comparaisons. On comprend bien qu'il n'a même pas les mots pour nous décrire exactement ce qu'il voyait. Et moi, ça m'a rappelé deux passages. Et donc, voilà, je vais lire d'abord dans Daniel 7, le verset 9, les versets 13 et 14. Et ensuite, je lirai dans Marc 9, les versets 2 et 3. Donc, Daniel 7, versets 9 et versets 13 et 14. « Pendant que je regardais, on a passé les trônes et l'Ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. Son trône était de flamme et ses roues étaient un feu dévorant. » Ensuite, verset 13. « Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. » Et ensuite, dans Marc 9, les versets 2 et 3, six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Et donc, que pouvons-nous comprendre de toutes ces descriptions? De ce que voit Jean, est-ce que Jean essaye de nous communiquer? Alors, nous n'allons pas trop analyser de façon poussée les symboles, qui pour certains des symboles ont des interprétations un peu diverses selon les personnes, mais je nous invite plutôt à nous intéresser au ressenti global. D'abord, Jésus apparaît au milieu de 7 chandeliers avec 7 étoiles dans la main. Et là, Jésus nous donne l'explication. Christ se tient parmi les 7 églises et il tient leurs 7 anges dans la main. Et il y a plusieurs choses que peuvent peut-être représenter les anges, hein, mais ce qui est sûr, c'est que j'en retire une idée claire. Jésus est parmi les églises et c'est lui qui les tient dans sa main. Ensuite, on a Jésus qui ressemble à un fils de l'homme. C'est la même description qu'on voit dans Daniel. Bien que glorifié, il garde sa nature humaine. Il n'est pas méconnaissable, mais reste le Jésus qui a vécu sur la terre, qui est mort et qui est ressuscité. Il reste un homme. Mais il ne fait que ressembler à un fils de l'homme parce qu'il est maintenant glorifié. Et cette glorification se traduit dans les autres détails que relève Jean. Ses cheveux et sa tête sont blanches, comme la laine et la neige. Et Daniel, ça c'est les attributs qu'il a rapportés quand il parlait de Dieu le Père, l'Ancien des Jours. Tout comme aussi, on retrouve la blancheur de la transfiguration. Un blanc éclatant, parfaitement propre, sans aucune tache. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Ses pieds comme du bronze ardent, son visage brille comme le soleil à son plus fort. Et je ne vais pas vous demander de regarder le soleil pour comparer, mais on comprend que Jean, face à ça, il tombe comme mort, face à cette gloire resplendissante. Ensuite, sa voix est forte comme une trompette, comme le bruit de grandes eaux. Et là, peut-être qu'on peut imaginer les chutes du Niagara, des chutes où ça fait un bruit assourdissant. Ou peut-être le bruit d'une fanfare. Tout résonne, on n'entend que ça. Bref, Jésus est glorieux comme on ne peut même pas l'imaginer et le décrire. Maintenant, dit Jésus de lui-même, que Jean nous a décrit comment il a vu Jésus, mais il a aussi raconté ce que Jésus a dit de lui-même. Et la première chose que Jésus dit, c'est de ne pas avoir peur. On va revenir sur ça après quand on parle de la relation de Jésus et de Jean, mais c'est déjà un premier indicateur sur qui est Jésus. Ensuite, il va dire qu'il est le premier et le dernier, qu'il est le vivant, qu'il est mort mais maintenant vivant au siècle des siècles. Et donc, on voit vraiment cette notion de vie éternelle, de Jésus qui vit éternellement. Il est en effet mort à la croix, mais il est ressuscité et la mort n'a plus d'emprise sur lui. Mais encore plus, il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Il a maintenant toute autorité. Et là, on retrouve, comme Daniel l'a annoncé, que tout est sous l'autorité de Jésus, y compris la mort. Et pour nous, ça veut dire que nous n'avons plus à craindre la mort. Si nous avons mis notre confiance en celui qui maintenant en tient les clés. Alors, regardons maintenant quelle est la relation de Jésus avec Jean. Et d'abord, souvenons-nous de qui est Jean. Il est l'un des premiers disciples à rejoindre Jésus avec son frère Jacques. Jésus leur a même donné un nom en particulier. Il les appelle les fils du tonnerre. Certes, pendant le ministère de Jésus, ils ont fait quelques bourdes, quelques erreurs. À un moment, c'est leur mère qui a demandé qu'ils puissent s'asseoir à côté de Jésus dans sa gloire. Ils ont aussi proposé à un moment à Jésus de faire descendre du feu sur un village. Mais voilà, mis à part ces erreurs, ils avaient une relation privilégiée avec Jésus. Quand Jésus s'éloignait, ils prenaient souvent avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et c'est bien ces trois-là qu'on a lu tout à l'heure, ont vu Jésus transfiguré. Vraiment une relation très proche, de proximité. De plus, Jean, dans son évangile, va se nommer le disciple que Jésus aimait. C'était vraiment une relation proche, une relation d'intimité avec Jésus. Le disciple que Jésus aimait. Pourtant, il se retourne et voit Jésus dans sa gloire, comme mort à ses pieds. Alors certes, Jean n'était pas encore mort à ce moment-là, il n'avait pas revêtu son nouveau corps, et donc peut-être que quand nous serons devant le trône de Dieu, peut-être qu'on ne tombera pas comme mort, voilà, face à sa gloire. Mais si Jean, qui avait une telle intimité avec Dieu, avec Jésus, a eu une telle réaction, quelle aurait été la nôtre? Et là, voilà, on n'aurait pas fait le fier face à la gloire de Dieu, tout comme Rousseau n'aurait pas non plus fait le fier. Donc, comment Jésus réagit-il? Il pose sa main réconfortante sur Jean qui s'est écroulé à ses pieds. Et là, ça rejoint, voilà, en revenant dans Daniel, le chapitre d'après Daniel 8, on voit la même réaction de Dieu face à Daniel que maintenant face à Jean. Et donc, c'est Daniel 8, les versets 15 à 18. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, quelqu'un qui avait l'apparence d'un guerrier se tenait en face de moi. J'ai entendu la voix d'un homme au milieu du fleuve Oulaï. Il a crié « Gabriel, fais comprendre à celui-ci ce qu'il a vu. » Il est alors venu près de l'endroit où je me trouvais. Terrifié à son approche, je suis tombé le visage contre terre. Il m'a dit « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne le moment de la fin. » Pendant qu'il me parlait, j'étais plongé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Il m'a touché et m'a fait me tenir debout là où je me trouvais. Et donc Jésus ne laisse pas son serviteur étalé au sol, ébloui par sa gloire, dans un état comme mort, mais il le relève. Et voilà, ça nous permet aussi de nous souvenir de toutes ces fois pendant son ministère où Jésus va relever le faible, porter une attention particulière sur celui qui est faible. Et donc Jésus, même dans la gloire, reste attentif aux besoins de ses frères. Il n'a pas changé à cet égard. Et enfin, donc voilà, il lui dit de ne pas avoir peur. Et enfin, il va confier une mission à Jean. Et voilà, c'est peut-être intéressant aussi, il ne fait pas juste le relever, lui dire de ne pas avoir peur, mais il lui confie une mission. Donc cette mission, d'écrire ce qu'il a vu et ce qu'il va voir. Mais la question pour nous, c'est quelle est notre relation avec Dieu? Qui sommes-nous pour lui? Et voilà, la première chose à dire, c'est que nous sommes tellement au bénéfice de lui, tellement au bénéfice de sa grâce. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes frères et sœurs de Jésus, adoptés, nous sommes justifiés par son sang, libérés du péché, nous sommes une nouvelle création, nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous, nous sommes ses serviteurs heureux. Tout ça, c'est quelque chose de merveilleux, toutes ces choses qu'on a en Christ. Mais, voilà, qui est-il pour nous? Jean, était aussi au bénéfice de toutes ces choses. Il était aussi adopté, aussi justifié, aussi libéré du péché. Et pourtant, il est tombé aux pieds de Jésus quand il l'a vu dans sa gloire. N'oublions pas à qui nous avons affaire. Quel est le privilège immense dont nous bénéficions à pouvoir même avoir affaire à lui. Oui, Jésus est notre sauveur, celui qui est mort à notre place. Mais il est aussi notre Seigneur, le premier et le dernier, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout a été mis sous ses pieds, y compris nous. Mesurons-nous réellement à qui nous avons affaire? Quand nous péchons, avons-nous conscience que nous offensons Dieu, que nous faisons la volonté du monde plutôt que la volonté de notre souverain saint et parfait? Notre péché est grave, il ne peut être toléré par un Dieu saint. Et voilà, demandons donc à Dieu de nous donner son dégoût pour le péché. quand nous ignorons ses projets pour nous, quand nous n'en faisons qu'à notre tête, avons-nous conscience que nous désobéissons à celui qui a toute autorité? Les projets de Dieu pour nous et pour le monde sont bons et parfaits. Ce serait insensé que de chercher à faire autrement. Demandons à Dieu de nous aider à faire des choix qui sont dans ses plans, qui sont selon sa volonté. Quand nous traitons le Dieu de l'univers comme le Père Noël, quand nous ne lui parlons que pour émettre des requêtes, avons-nous conscience que nous traitons le Créateur de l'univers comme un distributeur? Demandons à Dieu de nous donner une attitude de reconnaissance et une attitude qui n'est pas centrée sur nous. Quand nous vivons comme si nous n'étions pas chrétiens, quand nous cachons notre identité ou que nous sommes un mauvais témoignage, avons-nous conscience que c'est la gloire de Dieu que nous ne mettons pas en valeur, que nous desservons? Demandons à Dieu de nous donner du zèle pour sa gloire. N'oublions pas tout ce que nous sommes pour lui, tout ce que nous avons en lui. Nous avons la grâce de pouvoir nous approcher de lui. Mais mesurons aussi à quel Dieu glorieux nous avons affaire. Alors, ce texte ne me laisse pas indifférent, et j'espère qu'il ne vous laisse pas indifférent non plus. Jean, le disciple bien-aimé de Jésus, celui qui a marché à ses côtés physiquement pendant son ministère et qui a continué à le suivre, à le servir pendant tout le reste de sa vie, est tombé comme mort en sa présence quand il l'a vu dans sa gloire. Et Jésus l'a relevé. Alors, c'est vrai que, voilà, à la période de Noël, souvent, on peut avoir cette image du petit Jésus, du bébé Jésus. Mais cette image, aujourd'hui, n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, Jésus est dans la gloire de son Père et nous sommes bien peu de choses face à lui. Et bien souvent, par notre péché, par nos choix, par notre attitude, par notre mépris de sa gloire, nous montrons que nous ne mesurons pas vraiment à quel Dieu glorieux nous avons affaire. Mais heureusement, nous avons un Dieu bienveillant à notre égard. Et nous nous retrouvons tous devant le trône de Dieu un jour. Nous ne fanfaronnerons pas, comme Rousseau l'imaginait. Nous ne ferons pas le fier. Nous ne pourrons pas nous vanter d'avoir vécu une vie bonne et certainement pas d'avoir vécu la meilleure des vies. Mais il y aura deux façons de vivre ce moment. Si nous avons déjà mis notre confiance en Jésus aujourd'hui, si nous l'acceptons comme notre Sauveur et notre Seigneur, notre nom est écrit dans le livre de vie et nous entrerons dans la gloire de Dieu pour toujours parce que notre condamnation est tombée sur Jésus qui est mort à notre place. Mais si nous ne mettons pas notre confiance en Jésus, nous nous retrouverons face au juge parfait et saint. Et nous serons jetés hors de la gloire de Dieu pour toujours, parce que notre condamnation sera portée par nous-mêmes. Faisons donc aujourd'hui le choix de nous soumettre à celui qui tient les clés de la vie et qui nous invite à partager sa gloire. Et je vous propose de prier pour terminer. Notre Dieu, quel Dieu merveilleux tu es, quel Dieu incroyable, quel Dieu glorieux, et quel Dieu aussi miséricordieux. Tu es le Créateur de l'univers et ta gloire remplit tout cet univers que tu as créé. Et pourtant, tu t'es inquiété de nous, ta faible créature, et tu as envoyé ton Fils mourir à notre place pour que nous puissions entrer en relation avec toi. Merci notre Dieu pour cette grâce que tu nous fais, mais aide-nous aussi à ne pas mépriser ta gloire, à ne pas oublier que tu es aussi un Dieu glorieux, un Dieu incroyable, un Dieu tellement au-dessus de nous. Mais heureusement que nous ne sommes pas obligés de chercher à t'atteindre par nos propres forces. Mais merci parce que si nous pouvons te parler, si nous pouvons entrer dans ta présence, c'est par le sang de Jésus qui a coulé pour nous. Amen.